Alors là, c'est le professeur de physique, Denis Carotti, qui nous donne son point de vue. Moi, j'aimerais maintenant entendre Idriss Aberkane, professeur en économie et géopolitique de la connaissance à l'École centrale, et puis chercheur à l'École polytechnique et affilié à l'Université de Stanford. Idriss Aberkane, d'abord, juste vraiment, géopolitique de la connaissance, qu'est-ce que ça recouvre ?
Déjà, ça recouvre une très bonne nouvelle, qui est que, comme la connerie, la connaissance est infinie. Et donc, on peut avoir une croissance infinie si on la base sur la connaissance. À partir du moment où on fait de l'économie et même de la géopolitique de la connaissance, eh bien, il n'y a plus de conflit d'intérêts, au moins sur le papier, entre croissance et développement durable, ce qui n'est pas rien du tout, hein, parce que les matières premières, elles sont finies. Or, quand vous regardez un peu la géopolitique traditionnelle, eh bien, elle vient du fait que nous sommes des êtres humains matériels et qu'on s'est battu pendant 7000 ans autour de ressources matérielles. Et les ressources matérielles, elles ont la particularité que quand on les partage, on les divise. Si on partage une pizza, si je vous donne une part à vous, ça en fait moins pour moi. Mais si on partage de la connaissance, et c'est ce que je suis en train de faire, eh bien ça en fait pas moins pour moi. Si je vous donne 20 euros, je les ai plus. Si je vous donne de la connaissance, je l'ai encore. A priori là, je vais pas sortir du studio plus bête alors que je vous donne de la connaissance. Et donc ça change tout sur le plan géopolitique. Dès lors qu'on considère que la richesse des États n'est pas dans leur propriété matérielle, mais dans leur connaissance. Et au-dessus de la connaissance encore, dans leur sagesse. Or là, eh bien, vous voyez par exemple la Corée du Sud qui exporte plus que la Fédération de Russie alors qu'elle a 3 fois moins de territoire et 171 fois moins de territoire et 3 fois moins d'habitants. Et elle exporte plus parce que la Corée du Sud a décidé d'exporter. On peut les vérifier.
On peut prendre du temps.
On peut les vérifier. Ceux-là, ils sont facilement vérifiables. Mais ce qu'on peut vérifier, en fait, très simplement, c'est que les ressources minières de la Corée du Sud sont infiniment plus faibles que les ressources minières de la Russie et qu'elle exporte plus malgré tout parce qu'elle a décidé d'exporter de la connaissance. Alors, c'est qu'un exemple. Mais pour conclure sur la géopolitique de la connaissance, la bonne nouvelle, c'est que vraisemblablement, c'est comme le dit l'UNESCO, comme les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que l'on construit les barrières de la paix. Et donc, je suis persuadé que si on vivait dans la connaissance absolue, il n'y aurait plus de guerre. Que toute guerre est un mélange, est une poudre noire d'ignorance et de connaissance. Pour faire la guerre, il vous faut la connaissance pour faire mal à l'ennemi, mais il vous faut l'ignorance de faire mal au conflit. Faire mal au conflit, c'est-à-dire trouver les raisons qui le rendent ridicule, idiot. Un conflit France-Allemagne aujourd'hui, c'est ridicule. Il y a deux générations, c'était pas ridicule du tout. Et donc, transcender les conflits, c'est une connaissance que nous n'avons pas encore. Si cette connaissance était plus diffusée, eh bien le monde irait mieux.
Alors cet enjeu de la connaissance, il est toujours évidemment passionnant. Il est noble, il est beau. Il n'y a rien de plus beau que de donner la connaissance, la transmettre. Mais il faut être... Allez, doutons ensemble. Quelle différence faire aujourd'hui, et vous avez travaillé là-dessus, même fait un papier dans Le Point récemment, entre information et communication ?
Absolument.
Alors, pas du tout la même chose. Hein.
Aujourd'hui, donc, on vit, l'humanité produit beaucoup plus d'informations et de connaissances qu'elle ne peut en transmettre. La connaissance mondiale, elle double à peu près tous les 9 ans en quantité. C'est-à-dire si on compte, attention c'est en quantité, si on compte uniquement tous les problèmes ouverts qui sont fermés, une technologie qu'on n'avait pas, et le temps qu'on l'ait, on compte toutes les nouvelles technologies qu'on a, puis ça double tous les 9 ans. Donc ça tient pas, ça prend pas en compte les révolutions scientifiques, etc. Mais ça donne une idée de la croissance exponentielle. Et aujourd'hui, on est plein d'informations, de données. Alors il y a tous ces niveaux. Il y a la donnée d'abord, il y a l'information ensuite, il y a la connaissance, et tout au-dessus, il y a la sagesse qui transcende le tout. Et effectivement, aujourd'hui, quand on est journaliste, on travaille sur la donnée, sur l'information. Quand on est scientifique, on est censé travailler sur la connaissance. La connaissance, normalement, ne se périme pas. C'est-à-dire qu'une connaissance, c'est une loi de la physique qu'on a découverte et qui va rester vraie. Une information, c'est périssable. C'est à telle heure, il y aura telle voiture à tel endroit. C'est plus valable 100 ans plus tard. Alors qu'une connaissance, normalement, ça, c'est impérissable. Alors la différence, évidemment, à faire entre communication et information, c'est la vérifiabilité. Ou ce que l'on appelle en science la falsifiabilité. Est une théorie scientifique, selon Popper, ce qui est contradictible. On peut apporter des éléments qui prouvent que l'ensemble des axiomes de la personne sont faux et on le démontre. Et justement, on voit qu'aujourd'hui, dans la formation, il peut y avoir de tout. Alors il faut être capable de séparer les enjeux. L'article du Point auquel vous faites allusion, c'est celui...
Qui vous a irrité, hein, parce que tout ce qui avait été dit sur Poutine.
Effectivement. Alors. Ouais. L'article du Point que j'ai fait, c'était douter sur l'idée que Poutine était autiste. C'est-à-dire, on voit cette nouvelle qui passe. Poutine est-il autiste ? Je suis neuroscientifique de formation, j'ai travaillé avec des autistes, c'est immédiatement, ça c'est complètement bidon pour moi. Il n'y a même pas à chercher. Alors après, il faut se poser la question, pourquoi ? Mais déjà, démontons l'information. Alors, un bon expert de l'autisme et des troubles des TSA, ce qu'on appelle les troubles du spectre autistique, vous dira que les autistes ont beaucoup de mal à regarder les gens dans les yeux. Ce n'est pas tellement le problème qu'à Poutine. Et beaucoup de gens qui l'ont fréquenté peuvent vous dire que vous ne gagnez pas facilement ce qu'on appelle en banlieue une baston de regard avec Poutine. Donc, alors qu'un autiste, oui, vous gagnez la baston de regard tout de suite. Hein, il détourne le regard. Un autiste, quel que soit son spectre, a des problèmes d'expression avec le langage corporel. Ce n'est pas du tout, encore une fois, le trait de Poutine. Un autiste a une difficulté énorme à détecter les failles et les faiblesses émotionnelles de son entourage. Un agent du KGB comme Poutine, au contraire, hein, est sélectionné sur le fait qu'il doit être capable immédiatement, comme au poker, de détecter le moindre début de faille de la part d'un collègue ou d'un ennemi, etc. Et donc vous pouvez démonter ce pseudo-diagnostic, et de très grands experts de l'autisme l'ont fait avant moi. Mais effectivement, en tant qu'expert en géopolitique, moi ce qui m'a intéressé, c'est le contexte. Et c'était vraiment l'idée qu'aujourd'hui, hélas, nous sommes dans ce qu'on peut appeler une guerre froide 2.0, et le terme n'est pas de moi, qui est en fait un nouveau rideau de faire avec deux nouvelles interprétations de la réalité dont les deux sont aussi éloignées de la réalité l'une que l'autre. Mais on a, disons, celle que l'on appelle de l'Occident, qui est en fait les pays de l'OCDE, ça va du Japon à l'Union Européenne en passant par les États-Unis, qui ont un point de vue. Et on a l'opposé, qui est l'Organisation de coopération de Shanghai, la Chine et la Russie notamment, qui ont un point de vue radicalement opposé sur certains points, des conflits notamment, on l'a vu avec le conflit en Syrie, on l'a vu avant avec le conflit en Libye. Et donc je me suis dit, c'est incroyable, on est revenu à cette rupture où d'un côté, de part et d'autre du rideau de fer, les langages ont changé. Mmh. Et il y a les gentils d'un côté, alors l'axe du bien, l'axe du mal, quelque chose qu'il fallait décomposer aussi. Aussi souvent qu'on vous dit, c'est vous qui avez raison, nous sommes dans le camp des justes, dans le camp des bons, méfiez-vous. Et c'est là que la zététique intervient, c'est là que l'art de douter intervient.
Ça, c'était le discours notamment des néoconservateurs. Hein. Nous avons raison parce que nous sommes les plus forts.
Exactement, nous avons raison parce que nous sommes les plus forts, mais... Très rapidement, vous allez ajouter à ça, nous avons raison parce que nos guerres sont justes. Et de toute façon, personne ne vous vendra une guerre injuste. Donc je n'entendrai personne vous dire partout en guerre, c'est injuste, mais allons-y quand même. Et de ce point de vue-là, il est nécessaire de déconstruire effectivement l'information.
Mais ce que vous décrivez là, c'est ce qu'on appelait autrefois, il n'y a pas si longtemps, qui n'a jamais cessé d'exister, ça s'appelle de la propagande.
Absolument.
Quand on fait quand on monte une opération comme ça, qui partait d'ailleurs du Pentagone, hein, en fait.
Certes.
Paraît-il, le premier dossier est parti du Pentagone pour dire que Poutine était atteint de la maladie d'Asperger.
Qu'est-ce que ça veut dire que propagande ? Ça veut dire quelque chose qui se propage. Et qui se propage, ça veut dire que c'est viral, c'est un virus. Alors, en fait, la vérité, l'être humain, il n'aime pas trop la propager. Ce que l'être humain aime bien propager, ce sont les émotions fortes. Notre cerveau est complètement accro aux émotions fortes. À tel point qu'on a démontré que la plupart des gens qui regardent un JT le regardent pour la dose émotionnelle de la journée et pas pour l'information. Et on a fait des tests où on a vraiment pris deux échantillons de personnes avec deux types de magazines, c'est ce qu'on appelle le journalisme de paix. Vous aviez d'un côté un magazine objectif qui traitait un conflit d'une façon complètement impartiale, sans absolument attiser la haine, et de l'autre, un journalisme qui avait les mêmes informations, mais enrobé du sucre, du sensationnel. Et évidemment, le deuxième se vendait beaucoup mieux. Et c'est ce qu'a observé Johan Galtung, le fondateur du journalisme de paix. C'est-à-dire qu'en fait, au fond, les informations de pacification, les informations qui montrent qu'un conflit n'a pas de raison d'être, se vendent très mal.
Il y a des années de ça... Parce qu'il a été l'un des premiers à le pointer avec une très grande pertinence. L'urbaniste et philosophe Paul Virilio, au moment de ces images abominables de cette petite Colombienne prise dans un puits qui est morte sous les yeux du monde entier, Virilio a parlé de la mondialisation des affects. Cette mondialisation des affects, qui est une réalité, est un immense défi jeté au doute. Et à cette nécessité de remonter dans l'histoire du fait pour comprendre ce qu'il en est réellement. Comment on va faire avec ça ? Parce que cette mondialisation des affects, elle est quotidiennement à l'œuvre.
C'est parce qu'il faut d'abord prendre conscience du fait que nous, les êtres humains, nous ne sommes absolument pas des êtres rationnels, par défaut. Ouais. Nous sommes des êtres rationnels exceptionnellement, mais nous sommes des êtres émotionnels par défaut. Nous prenons nos décisions d'achat, de vote, de suivi, avec nos émotions. Et ensuite, nous les rationalisons. Et dans l'immense majorité des cas, nous décidons de suivre une personne, de lui faire confiance, d'acheter son produit ou de voter pour elle avec nos émotions. Et c'est une illusion que nous avons de croire que nous sommes rationnels. Elle est démontrée en neurosciences depuis plus de 30 ans comme une illusion absolue. Mais nous rationalisons nos choix a posteriori, mais notre inconscient prend ses choix, dans l'immense majorité des cas, avec ses émotions. Mais dès lors que nous sommes conscients de ça, et bien effectivement, nous devenons bien davantage rationnels. Mais nous devons d'abord prendre conscience du fait que notre cerveau a des biais cognitifs qui ont une origine évolutive, l'un d'entre eux étant que nous sommes ce que l'on appelle un cognitive miser, c'est-à-dire un faible sur le plan cognitif. Nous essayons toujours de comprendre un problème avec le moins d'opérations mentales, toujours. Mmh. Et notre cerveau essaie de faire le moins d'opérations mentales, ce qui est une bonne chose parce que ça permet au cerveau d'éviter la saturation. L'évolution nous a sélectionnés pour ça. Et un autre biais dont je veux absolument vous parler, c'est le fait que la vérité n'est pas démocratique, mais que notre cerveau a une très grande tendance à suivre l'opinion du plus grand nombre. Or, on est d'accord que la vérité n'est pas démocratique. Si tout le monde vote pour dire que 2 et 2 font 5, ça n'en fait pas un théorème. Et en mathématiques, clairement, le vote n'est pas un théorème. Sur Wikipédia, toujours, eh bien, les décisions de conserver ou de rejeter un article sont prises au consensus. Et même en science, en fait. En science, aujourd'hui, le consensus est extrêmement important pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, à tel point qu'un scientifique doit soumettre son idée au consensus.
Le consensus, le mot, on y reviendra tout à l'heure, il y a tellement de choses dans consensus, et enfin on ne va pas commencer par le début du mot, mais pourquoi pas après tout. Nous sommes en compagnie d'Idriss Aberkham, de Guy-Maître Viron et de Denis Carotti, c'est 3D, on va faire une pause maintenant pour laisser la place au journal de 13h et nous vous retrouverons avec plaisir à partir de 13h30. Peut-être aurez-vous à répondre aux questions, j'espère sûrement même, de celles et ceux qui nous accompagnent ici au studio 621.
On retrouve tout de suite Stéphane Paoli, 3D, le journal La Suite.
Merci Brigitte Forest. Nous allons continuer, Aurore, est-ce que je vais dire une horreur là ? Nous allons continuer de ZTT. Non, ça ne vous va pas ça.
Vous connaissez les... Je vous ai parlé des vététistes tout à l'heure ?
Non, mais pas les VTT.
Ouais,
non,
mais bon, non. C'est un nouveau mot, il est rentré dans le dictionnaire cette année, dans le Robert, le vététiste. C'est le type qui est sur un VTT, et ça m'a vraiment fait penser à ça, ZTTEC, là.
Ah non, zététique, non, et la zététique, terrible. C'est le thème de 3D.
Il est terrible ce mot, il faut le dire, hein, je le dis. Il est terrible, il est horrible, il est moche.
Voilà. Oui, sauf que c'est quand même, et c'est passionnant, l'art du doute. 3D.
3D. Le journal de Stéphane Paoli.
Et nous en parlons avec Guy-Maître Viron, qui est docteur en mathématiques et cofondatrice du collectif de recherche transdisciplinaire Esprit Critique et Sciences, également chargée des cours en autodéfense intellectuelle, elle en a parlé tout à l'heure brillamment, à l'Université de Montpellier, intervenante aussi à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglums dans l'Hérault. À ses côtés, Denis Carotti, qui lui est professeur de sciences physiques à Marseille, cofondateur du Cortex, et formateur aussi pour les enseignants dans les académies d'Aix-Marseille et Grenoble en thématique science, esprit critique et décidément autodéfense intellectuelle dont nous avons tous le plus grand besoin. Et enfin, Idriss Aberkham, professeur en économie et géopolitique de la connaissance à l'école centrale, chercheur à l'école polytechnique et affilié à l'université de Stanford. Et puis bien sûr, Aurore Vincenti,
qui vient de discuter avec Idriss Aberkham pendant 10 minutes, l'eau à la bouche, parce que moi je suis pour une érotisation de la connaissance, mais lui est pour une gastronomie de la connaissance, et en fait érotisme et gastronomie, ça va ensemble, donc je vais le relancer là-dessus parce que c'était tellement génial. Que
attendez, mais s'il y a érotisme et connaissance, est-ce qu'on peut prendre un abonnement à l'année ou pas?
On peut tout à fait. Je parlais du fait qu'on pourrait résoudre beaucoup de problèmes dans le monde si la connaissance circulait plus vite, et comme aujourd'hui nos modes de transfert de la connaissance sont très anciens, il va s'agir de les remettre en question. Et un moyen de les remettre en question, c'est d'arrêter, de sortir du gavage, puisqu'en fait, dans nos modes de transmission de la connaissance aujourd'hui, eh bien, ils sont basés sur le gavage industriel. C'est-à-dire que vous avez un volume de connaissances à absorber, il est absorbé à un certain rythme, et si tout ce que vous avez laissé de côté, ça sera des points en moins sur votre bulletin. C'est notre modèle de transfert de la connaissance aujourd'hui. Imaginez au contraire que maintenant, la connaissance soit quelque chose que l'on absorbe pour se nourrir. Et que l'on absorbe avec plaisir. Vous savez peut-être qu'on appelle le système nerveux digestif le deuxième cerveau.
On a fait une émission là-dessus il n'y a pas longtemps.
Très bien.
C'est passionnant.
Et pourquoi on l'appelle le deuxième cerveau?
Parce qu'il y a des neurones et que tout correspond.
Et que c'est parce qu'en fait, c'est la deuxième partie du corps où il y a le plus de neurones. Mmh. Avant, la première, le premier cerveau, le cerveau et la moelle épinière. Quel est le mode naturel d'absorber du contenu pour le deuxième cerveau, Stéphane?
C'est de manger.
Oui, mais le mode émotionnel. C'est agréable
le
de manger.
Plaisir, je vous le souffle. Et c'est plaisir.
Le plaisir, quoi, vous dites?
Le plaisir.
C'est le plaisir. Notre façon naturelle d'absorber
de la
nourriture.
À partir d'un certain âge, j'en entends moins bien.
Arrêtez. Vous n'allez pas me la faire, celle-là. Non.
La façon naturelle d'absorber du contenu pour le deuxième cerveau, c'est le plaisir. Pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement pour le premier? Et il n'en est pas autrement. La façon naturelle d'absorber de la connaissance pour notre cerveau, c'est le plaisir aussi. Nous sommes connectés bien pour sûr. L'aimer. Eh bien, faisons en sorte que de même qu'il y a une gastronomie de la matière, de la nourriture, qu'il y ait une gastronomie de la connaissance. Que quand on vous transfère une connaissance, on vous donne de l'appétit. Et là, j'aimerais juste parler deux secondes de mon ami Alain Passard. S'il nous écoute, je le salue. Quand on mange chez lui, on passe par trois étapes. Bon sang, ça, je ne l'ai jamais goûté. Je suis très content de l'avoir goûté, deuxième étape. J'aimerais en goûter plus, troisième étape. Eh bien, faisons en sorte que la connaissance se soit pareille. Bon sang, ça, je ne le savais pas. Je suis bien content de le savoir, j'aimerais en savoir plus. Si nous transférons la connaissance sur ce mode-là, en donnant l'appétit aux élèves d'apprendre, pas seulement en leur donnant la connaissance sans leur avoir présenté, en faisant des apéritifs, eh bien nous allons augmenter le flux de connaissances.
Magnifique proposition. Eh bien, je vous propose, tenez, amusons-nous tous ensemble. Faisons de 3D, mesdames et messieurs qui nous accompagnent au studio 621, pourquoi ne pas en faire une sorte de labo, de laboratoire avec Guillemette Reviron, avec Denis Carotti, avec Idriss Aberkane. Quelle est votre idée au fond, Guillemette Reviron? Qu'est-ce qu'on peut, ou je sais pas, ou Denis Carotti, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui vous permette, vous, quand vous vous retrouvez ensuite avec vos étudiants et vos élèves, d'avancer un peu sur la plateforme? Toujours dans la perspective de la zététique, c'est-à-dire l'art du doute.
Tout à fait, Stéphane. Je vais vous proposer d'être à contribution pour cette expérience que nous allons mener. Est-ce que vous pourriez, d'après vous, influencer à distance les objets? Le mouvement des objets.
Très sincèrement, je ne me suis pas vraiment jamais posé la question.
Alors on va tenter de faire l'expérience.
Mais je vais commencer à m'y mettre sérieusement. Oui.
Il va falloir que vous convainquiez vos auditeurs de se prêter à une petite expérience assez simple. Donc ça consiste tout simplement, si ils acceptent d'y participer, de sortir une pièce de monnaie. Et d'effectuer.
Mais vous êtes un gros malin, vous. Hein.
ils ne vous la porteront pas, ils la gardent. Proposez-leur de faire un lancer, et même 10 lancers consécutifs. Sauf que vous allez vous concentrer.
Quoi, Stéphane, de lancer la pièce de monnaie.
De lancer la pièce de monnaie 10 fois consécutivement. Et vous allez vous concentrer, vous, Stéphane, là, pendant quelques secondes, pendant qu'ils font cette expérience, pour essayer de faire en sorte que les pièces de monnaie tombent toujours du même côté, que ce soit face ou pile. Choisissez. Allez-y.
Ben moi, tant qu'à faire, moi j'aime bien regarder les visages, donc face, je choisis face.
Concentrez-vous, chers auditeurs, allez-y, lancez la pièce, chers téléspectateurs.
Est-ce que vous avez des pièces avec vous, mesdames et messieurs?
Alors ici, certainement, peut-être que ça marche peut-être mieux à distance. On va voir si vos auditeurs auront réussi l'expérience. Et je vous invite, chers auditeurs, à tweeter, si c'est possible, en tout cas sur l'émission, pour réagir et dire si Stéphane est arrivé à vous faire lancer cette pièce 10 fois d'affilée du même côté, donc le côté face.
Alors, je ne sais pas, oui, Camille, elle est là, Camille? Oui, Camille, qu'est-ce qu'on a comme... On a un tweet ou pas, nous?
On n'a pas Twitter, mais il y a le mail, sinon.
Le mail,
bien sûr.
Le mail.
Alors, le mail, c'est 3D.
C'est 3d@radiofrance.com.
Alors, ben, allez-y, si vous êtes chez vous...
Et écrivez-nous dans les quelques
minutes. Inondez-nous de pièces. Moi, je dis c'est face. Ce sera face. Je veux que ce soit face.
Donc, la consigne, c'est si on a 10 faces, on envoie un mail à l'émission 3D pour dire qu'effectivement...
Stéphane est arrivé à influencer cette pièce à distance.
Et moi, je ramasse un peu ou pas?
Oh bah vous êtes corse, donc la bien gloire. Sûr que vous ramassez.
La gloire. Je suis corse par mon père et basque par ma mère, d'accord. N'oubliez jamais ça.
on pourra illustrer par là quelque chose qui est assez fondamental, ce qui est remarquable avec cette expérience, c'est qu'elle met ce qu'on aime faire aussi, c'est ça, c'est des expériences concrètes. Donc on met les élèves, les étudiants concrètement face à une situation expérimentale, on teste quelque chose. Et quand on voit la réalisation de cette expérience, après on peut discuter, notamment de quoi? De ce qu'on appelle les coïncidences extraordinaires. Est-ce qu'une coïncidence, donc deux événements apparemment complètement fortuits et qui ont une extrême probabilité très faible de se produire, est-ce qu'on peut en déduire autre chose que du hasard? Souvent, on met du sens derrière. Et c'est ce qui est à l'œuvre parfois dans les théories du complot, dans les théories conspirationnistes, mais théories avec des guillemets, où l'on va remarquer un tas de coïncidences pour justement justifier que cette explication, ce scénario du conspirationniste est bien vrai, en fait. Mmh. Rappelez-vous, pour le 11 septembre, tout ce qu'on avait pu faire bien avec les chiffres, aller chercher ce fameux 9 et ce fameux 11, 9-11, les deux tours du 11 septembre, qui représentaient le 11. Quand on additionne le nombre de passagers qui étaient morts dans l'avion, on retombait sur 11. Quand on comptait le nombre de lettres en Afghanistan, on tombait sur 11. Quand on compte The Pentagon, c'est aussi 11 lettres, etc., etc. Comment interpréter ces coïncidences? Ça ne peut pas être que du hasard. Donc on en reparlera peut-être à la fin de l'émission.
C'est terrible, parce qu'on dit ça, puis il y a des tas de gens qui disent « Mais il a raison, finalement il dit l'inverse de ce qu'il a dit dans le début de l'émission, ça ne peut pas y avoir de hasard. » C'est terrible, quoi, parce que dans ces failles-là, s'engouffre le tout et parfois le pire.
Tout à fait. C'est, bon, peut-être qu'on peut le... On va le dire, mais c'est, qu'est-ce qui risque de se passer avec le million d'auditeurs, peut-être un peu plus aujourd'hui, parmi tous ces auditeurs.
Franchement, mon cher, beaucoup plus.
Beaucoup plus, voilà. Quelle est la probabilité, en fait, d'arriver à faire 10 faces d'affilée en lançant une pièce de monnaie? C'est une chance sur 1024. Une chance sur 1024, certes, c'est très peu probable, mais quand on reproduit cette expérience des millions de fois, qu'est-ce qui va se produire inévitablement, simplement par hasard, sans aller chercher un sens particulier, sans aller chercher une action à distance de Stéphane Paoli? C'est qu'il va se produire des dizaines, et voire même des centaines d'auditeurs qui vont arriver à réaliser cette...
Je vous préviens qu'après, moi, je fais une campagne. Hein. Le type qui est capable, par sa pensée, de faire tomber les pièces côté face.
Exactement.
C'est le risque.
Oui, c'est le risque, comme vous dites.
C'est coïncidence extraordinaire. Là, je...
Peut-être des... Commençons par des questions, Camille. Est-ce que... Qui souhaite intervenir? Monsieur, je vous en prie.
Oui, je voudrais savoir comment on passe du doute à la décision. Parce qu'il y a un moment où il faut prendre une décision. On a beau prendre du temps, réfléchir, retourner. Tous les médecins sont obligés de prendre une décision. Les managers sont obligés de prendre une décision. Les militaires, les scientifiques. Il y a un moment où il faut prendre la décision. Et est-ce qu'il y a des esprits intuitifs qui sont beaucoup plus rapides et qui perçoivent, qui analysent beaucoup plus vite le doute?
Question intéressante. Idriss Aberkan,
si vous voulez répondre, allez-y.
Je t'en prie, Idriss.
Alors, on sait que le cerveau utilise énormément l'intuition pour prendre une décision, puisque le doute rationnel, la rationalisation, c'est ce qui coûte le plus cher au cerveau. Donc, ce qu'on appelle les gut feelings, sensation des tripes, ça reste un moyen de prise de décision très rapide. Maintenant, sur le plan rationnel, il y a ce qu'on appelle l'inférence bayésienne, c'est-à-dire vous regardez option A, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Option B, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de peser comme ça, l'endroit où il y a le moins de morts, enfin, par exemple, hein, si c'est une décision politique, médicale, normalement, c'est comme ça qu'on prend nos décisions sur le plan politique. Et ça nécessite d'avoir des données, évidemment. Et si vous voulez avoir une opinion très, très claire, prenez par exemple la façon dont les compagnies d'assurance prennent leurs décisions, parce que c'est très très souvent parmi les meilleurs au monde. Les compagnies d'assurance prennent leurs décisions selon leurs pertes financières, et quand elles prennent une décision d'assurer tel ou tel risque, très souvent dans le monde entier, ça sert d'étalon pour savoir, pour connaître l'intensité de ce risque. Donc si vous voulez avoir cette réponse, je vous dirais, regardez comment font les compagnies d'assurance.
Vous avez dit juste une chose avant de vous entendre, Guillemette Reviron. Je reviens à ce que vous disiez si joliment tout à l'heure à propos de la gastronomie de la connaissance et l'envie. Et vous évoquiez notre deuxième cerveau, les intestins. Mais il y a des neurones dans les intestins. Et donc, tout ce qui relève de l'émotivité peut être aussi échange de l'information avec le premier cerveau. Donc, quel type de communication entre le premier et le deuxième pour répondre peut-être aussi dans la rapidité? Et est-ce que l'émotivité n'est pas aussi une forme d'analyse, au fond?
Oui, en fait, on a des marqueurs émotionnels qui peuvent nous induire en erreur très souvent. Mais s'ils sont là, c'est qu'en fait, ils ont survécu dans l'évolution. Et s'ils ont survécu dans l'évolution, c'est qu'ils sont pragmatiques, c'est qu'ils marchent. Après, ils marchent, les conditions sont plus les mêmes qu'à l'époque où on était sélectionné dans l'évolution. Je veux dire, ces marqueurs, un cas célèbre, c'est que notre cerveau préfère largement, tout notre système nerveux préfère largement avoir tort et rester dans un groupe qu'avoir raison et quitter le groupe. C'est un problème, c'est ce qui fait que la vérité n'est pas démocratique, mais qu'on continue à faire confiance à l'opinion du groupe. Eh bien, ça vient du fait que quand on était dans l'ère glaciaire ou dans la savane, eh bien, il valait mieux avoir tort et rester dans le groupe, parce que là, vous surviviez, qu'avoir raison et quitter le groupe. Là, vous étiez mort. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire qui nous intéresse. Et dans les situations dramatiques, comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la résistance, c'était avoir raison, mais quitter le groupe, essentiellement. Et là, on voit que c'est la chose qu'il fallait faire. Alors, si vous voulez revenir à la partie physiologique, bien, clairement, en fait, vous savez, système nerveux central, système nerveux périphérique, c'est aussi une séparation que les neuroscientifiques ont fait par commodité, qui a des bases, qui a des bases solides, mais qui est commode. Et en fait, les deux communiquent tout le temps. Et le stress influence complètement nos décisions et nos performances. Donc ça, on le sait très très bien. Et le stress, bah, c'est le plexus solaire, c'est le système nerveux autonome.
Ah, les mails commencent à tomber. Face, merci Stéphane. Voilà. Merci à vous Frédéric. François, 9 faces sur 10.
Ah, pas
non, mais je ne crois pas.
On compte ou on compte pas?
7 faces sur 10. Là, c'est
on veut 3, que du
non,
10.
Celui-là, Michel, je suis pas content. 3.
Allez, il sort du groupe, celui-là.
Oui, il sort du groupe. Il sort du groupe. Oui, vous vouliez répondre, Guillemette Reviron, à cette question très intéressante sur comment décider dès lors qu'on a engagé la posture du doute.
Tout à fait, je crois que c'est... On a bien insisté là-dessus, le doute, c'est vraiment pour démarrer. C'est-à-dire que si j'ai une certitude, ça ne sert à rien d'aller enquêter. Donc il faut bien que je commence par douter, que je suspende mon jugement. Mais effectivement, au bout, vous parlez des médecins, etc. Mais en tant qu'individu, on doit faire des choix. Et donc peut-être j'avais envie de raconter très rapidement un enseignement que j'avais mené à l'IUT de Béziers avec des étudiants de première année. Et je leur avais confié une mission. Je leur avais dit, voilà, vous allez enquêter. Vous êtes des étudiants en technique de commercialisation. Donc, vous n'êtes pas scientifique. Et donc, vous n'êtes pas spécialiste des questions comme la vaccination contre l'hépatite B. Vous n'êtes pas spécialiste des OGM, etc. Ou des lignes à très haute tension. Et donc, je voudrais qu'on a 7 séances d'une heure et demie. Alors, c'est peu, hein. Et en ces 7 séances d'une heure et demie, je voudrais que vous déblayiez le terrain. Et donc, chaque séance, je leur donnais une mission d'aller savoir qui s'exprimait sur le sujet, sans savoir ce qu'ils disaient, quels étaient leurs statuts, quels étaient leurs arguments, quelles étaient leurs sources, etc. Et je leur ai dit, à la fin, si vous me dites... donc, la question précise, par exemple, sur les lignes à très haute tension, c'est est-ce que c'est dangereux pour la santé humaine ? Donc, avec tout ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être dangereux ? Quelles sont les preuves qu'on nous amène, etc. Le premier cours, je leur dis, mais je vous préviens, si vous me faites une première partie, oui, c'est dangereux, une deuxième partie, non, c'est pas dangereux, une troisième partie, oui, c'est dangereux, mais c'est pas dangereux, moi, je suis maire d'une commune, je fais quoi ? Je les fais passer ou je les fais pas passer, mes lignes à très haute tension ? Donc, l'objectif, c'est qu'à la fin, vous triez l'information. Et ils sont tétanisés, mais on est tous tétanisés. Là, il y en a un qui me dit, mais madame, c'est ce qu'on nous demande tout le temps. Et je comprends, effectivement, on a l'impression qu'à partir du moment où il faut toujours rester neutre, il y a un peu cette idée d'être objectif, de devoir rester neutre, de ne pas prendre parti. Et que si on prend parti, on devient extrémiste ou radical. Et je crois que nous, en fait, pour faire des choix, il va falloir placer son curseur et faire avec l'information, la connaissance actuelle et ce qu'on a aujourd'hui.
Et faire aussi une chose qui me paraît très très importante, nous en parlions tout à l'heure avec Idriss Aberkan, n'avoir jamais peur de se tromper. C'est pas grave de se tromper. Ce qui est mortel, c'est de ne pas chercher. Mais se tromper, tout le monde se trompe tout le temps. Dès lors qu'on reconnaît qu'on modifie la posture ensuite. Mais se tromper, c'est... Alors, de Belgrade. Alors Olivier, merci de en direct de Belgrade, où je me suis amusé à réaliser l'opération face. Résultat, 6 faces et 4 piles. Et il ajoute, les ondes ne sont pas parvenues jusqu'ici. Un petit peu quand même. Enfin,
parfaite explication.
Pas mal.
6 sur 4,
j'ai la moyenne au minimum. Autre question ? Vous nous faites un petit signe et on vous apporte un micro. Pas d'expérience en cours dans le public qui nous accompagne au 621. Bon, oui, pardon, madame.
Oui, parce que j'ai toujours peur de ne pas bien parler français, c'est pour ça. Mais tout à l'heure, le monsieur m'a dit, il a dit que la connaissance, on partage, ça reste toujours. Et comme ça, je suis coréenne, Corée du Sud, en Corée, on dit le bonheur. Plus qu'on partage, plus le bonheur grandit. Tandis que le malheur, plus qu'on partage, le malheur diminue. Oui. Et puis, la décision avec le doute, chez nous, et tout ce qui est sur la terre, si ça vaut la peine d'expérimenter, on n'a pas besoin d'hésiter pour décider. Quel qu'il soit, arrive. Si on le prend avec le joie, ça s'arrange.
C'est une façon, je trouve, extrêmement intelligente d'aborder la question de la connaissance et du partage. Cette intelligence collaborative, est-ce qu'elle est en train de comment... J'insiste sur le fait que vous êtes tous quoi, des petits trentenaires, même pas...
Ne vous fiez pas aux apparences. Je suis très proche de la quarantaine.
J'ai 28 ans, ce qui me concerne.
Mais... Ah, 28, mais c'est bien.
Non, mais voilà, c'est tout de même, vous tirez une façon de penser les choses qui est assez différente de celle qu'on a pu connaître, en tout cas dans ma génération. Et est-ce qu'il y a là quelque chose qui est en train de dessiner un nouveau projet collectif, une approche? Le géopoliticien dit quoi de
ce que je viens d'entendre? Bon, déjà, annyeonghaseyo, ça me fait très plaisir d'avoir une Coréenne ici, parce que la Corée a eu un ministère...
Vous parlez coréen aussi?
Non, je sais juste dire bonjour, mais je me la joue à la radio.
Non, parce que...
Commencez
à me faire peur.
J'étais en Corée cet été, et le seul truc que j'ai retenu, c'est ça. Et j'ai su dire bibimbap aussi. Mais ça, c'est le truc très pratique, parce que c'est de la bouffe, donc ça se retient plus facilement. Et en fait, non, les Coréens ont eu un ministère de l'économie de la connaissance. Donc ça, c'est très très solide. Ça me fait très plaisir d'avoir cette remarque. Oui, on est en train de voir un changement, parce que la vérité est un miroir brisé. Chacun en possède un petit morceau. Et chacun croit, parce que nous avons un ego, que son petit morceau représente le tout. Donc la pensée unique, en fait, c'est dire mon morceau, c'est le seul, je détruis tous les autres. Et aussi longtemps qu'on a fait ça, des autodafés, etc., eh bien, on a détruit l'humanité. Mais aujourd'hui, on a une tendance mondiale à mettre nos morceaux de connaissances en commun. Elle n'est pas encore majoritaire, mais elle est là. Et Wikipédia, par exemple, la démontre clairement. Donc, pour moi, je suis optimiste.
Alors, optimiste, mais néanmoins, cet outil... Alors, attendez. Merci de me dire la différence que votre invité fait entre... Ah, ça, c'est une belle question. Merci de me dire la différence que votre invité fait entre connaissance et conscience. Ça, c'est une superbe question.
Absolument, absolument. Alors... Déjà, normalement, les ordinateurs n'ont pas de connaissance, donc là, ni de conscience. Donc la différence qu'on faisait, c'est-à-dire que les ordinateurs traitent l'information et qu'au-delà, les ordinateurs n'ont pas de connaissance. On arrive aujourd'hui à faire des intelligences artificielles qui ont de la connaissance avec les algorithmes génétiques. Donc la première différence que l'on fait entre connaissance et conscience, c'est la différence entre un ordinateur et un cerveau. Le cerveau est conscient, l'ordinateur non. Ça, c'est une première façon de faire la différence. La conscience, normalement, c'est la pensée intentionnelle. Donc, ça peut être n'importe quelle idée, hein, sans être une conscience. C'est-à-dire une vache volante rose à pois vert, c'est pas de la connaissance, a priori. Mais c'est de la conscience. Je l'ai dans ma tête, j'en suis conscient. Donc, la conscience est un état mental. La connaissance, c'est quelque chose de vérifiable qui implique le monde. Donc, la différence que l'on peut faire, en fait, c'est que la conscience, ça ne dépend pas du monde. Et la connaissance, ça dépend du monde.
Autre question qui mériterait probablement beaucoup plus de temps, mais quand même elle me vient à l'esprit, surtout dans le contexte où nous sommes tous en ce moment. Zététique, l'art du doute appliqué à peu près à tous les champs de nos activités. Mais la foi, la question de Dieu, soumise à la zététique, comment on fait avec ça? Parce qu'il y a le pari de Pascal, mais on n'est pas tous Pascal. Donc comment on rentre dans une question de cette nature?
Je crois que c'est primordial, en fait. Quand on commence nos enseignements, une des premières choses que l'on fait, à part définir le mot science comme accès à la connaissance et démarche, c'est aussi de revenir sur la différence entre croyance, remport d'adhésion. Qu'est-ce qui fait que quelque chose va remporter notre adhésion? Et puis l'acte de foi. Si l'acte de foi ne se justifie pas, normalement, on n'a pas besoin d'arguments pour croire, hein, dans le sens foi. Pour autant, lorsque l'on a tout type de proposition autre, par exemple, telle thérapie va fonctionner, tel système politique est efficace, telle affirmation sur telle réalité du monde est ce qu'elle est, on a normalement des arguments qui vont aller dans notre sens ou dans le sens au contraire. Donc la question de la foi, nous, on la décortique comme ça. S'il y a des arguments factuels sur lesquels on peut se prononcer, alors allons-y, enquêtons, cherchons à savoir si c'est plutôt vrai ou plutôt faux. Mais du moment où on n'a pas d'argument, c'est la question de la foi, je crois que zététiquement, comme on dit, on ne se prononce pas sur cet aspect-là qui est propre à chacun.
À chaque individu.
La deuxième chose, c'est qu'en réalité, on entend, et vous en avez déjà parlé, j'imagine, non pas l'opposition, mais la convergence souvent qui est pointée entre religion et science. Ça fait partie d'un deuxième aspect du problème. C'est-à-dire, des personnes tentent, par exemple, on les appelle créationnistes, on parle aussi de courant de l'intelligent design, notamment aux États-Unis, mais pas que, d'essayer de faire entrer l'enseignement de la création dans les cours de science. Alors là, ça pose une vraie question. Qu'est-ce que nous transmet l'enseignement religieux? Qu'est-ce que nous transmet l'enseignement scientifique? Est-ce qu'on peut faire converger les deux? Donc voilà les questions qu'on pose, en tout cas au niveau de la religion, c'est de distinguer l'acte de foi et le remport d'adhésion, et d'un autre côté aussi d'interroger en quoi la question scientifique n'est pas la même. En tant que, comme disait Idriss, on va constater ce qui est là, réel autour de nous, et peut-être l'acte de foi.
Mais lorsque vous croyez en Dieu, c'est bien parce que quand vous étiez petit, votre père, votre mère, votre grand-mère, je ne sais pas, la paroisse, vous a dit, vous a essayé de remporter votre adhésion. Exactement. Donc, quelle différence là vous faites entre ce remport d'adhésion-là, dès la petite enfance, et un autre qui serait d'ordre peut-être plus sectaire ou idéologique?
Je crois que...
Au passage, 7 faces, 3 piles. C'est une grande journée pour moi.
On voudrait 10 faces.
Oui, sur cette question du rapport d'adhésion, alors il y a par exemple, enfin des fois effectivement, on essaye d'amener des preuves de l'existence de Dieu ou de prophètes ou de Jésus, etc. À partir du moment où on amène des faits, on peut discuter de ces faits. Là, on parle vraiment de la croyance en une entité immatérielle qui aurait créé le monde. Et ce qui se passe, c'est que la démarche scientifique, elle a un contrat, une charte qu'on nous expose rarement, y compris quand on fait des sciences. Je ne sais pas si tu as déjà fait un peu d'épistémologie dans tes parcours. Voilà, mais moi, je n'en avais jamais fait pendant toutes mes études de sciences. Et en particulier, la question de quelle est comment la science peut se comporter face aux entités immatérielles ? On parle de Dieu, mais on peut parler... j'aime bien l'exemple de la théière de Russell, par exemple, où Russell, donc un logicien, qui disait, finalement, imaginons qu'autour de la Terre, je vous le dis, il y a une toute petite théière, toute petite théière, tellement petite que même si on avait des instruments extraordinaires, on ne pourrait pas la voir. Comment vous positionneriez-vous? Et souvent, on se dit, je suis pas une entité matérielle, je peux pas démontrer qu'elle existe, je peux pas démontrer qu'elle n'existe pas. Donc, comme d'habitude, je suis un peu neutre, je me mets un peu au milieu. Mais cette théière de Russell, Russell, il dit, vous serez probablement plutôt athéiriste. Vous seriez pas agnostico-théiériste, c'est-à-dire que vous ne suspendriez pas votre jugement. Et c'est vrai que ça fait partie de la démarche scientifique. C'est un peu, on ne peut fonctionner qu'avec ce qui est matériel, ce qui laisse des traces sur la matière. Et donc tout le reste est exclu du champ des connaissances. Et c'est pas qu'on dit que ça n'existe pas, c'est qu'on dit qu'on ne pourra jamais rien dire de plus vrai que de faux sur ces entités-là. Et voilà, alors qu'est-ce qui fait que pour cette théière de Russell, effectivement, la plupart d'entre nous, je pense, mettraient leur curseur, c'est vraiment très, 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 très invraisemblable que ça existe. Et pourquoi pour Dieu, on place notre curseur différemment, on le suspend, ou on va le placer vers très invraisemblable ou très vraisemblable. Ça, après, je pense que ça appartient à chacun de s'interroger là-dessus. Mais souvent, on pense que la démarche scientifique ne peut rien dire de l'existence de Dieu. Elle peut dire des choses de l'existence de la théière de Russell, en tout cas.
Vous connaissez l'anecdote magnifique de la discussion entre Einstein et Niels Bohr. Mmh. Einstein, Dieu ne joue pas au dé, et Bohr de lui répondre, cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est magnifique.
Mais on peut très bien remplacer Dieu par univers. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est ce que faisaient les panthéistes. Ils disaient, après tout, l'univers, c'est une partie de Dieu.
Bien sûr. Une dernière chose, on a envie de vous poser 1000 questions. Mais on l'a évoqué plusieurs fois, Internet existe. Les réseaux sociaux existent. Et tout ça fonctionnant encore une fois à des vitesses, on parle pourquoi pas du turbo-capitalisme, peut-être pourra-t-on parler un jour des réseaux sociaux turbo qui fonctionnent à des vitesses folles. Comment faire en sorte dans ces réseaux-là, de faire apparaître cette posture qui est celle de la temporisation, du doute, de l'analyse critique, de la remise en perspective? Parce que le monde va fonctionner de plus en plus à travers ces systèmes et dans cette vitesse-là.
Bon, je ne sais pas si je parle en mon propre nom. Quand je regarde les réseaux sociaux, alors prenons Facebook, je suis évidemment sceptique par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire parce que, évidemment, ce que l'on vend, ce sont nos informations, c'est nous-mêmes. Donc, nous sommes la marchandise de ces réseaux sociaux. Donc, déjà, d'interroger les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça représente ? C'est bien d'en discuter avec les élèves. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui le font très bien, bien mieux que moi. Par contre, c'est comment nous, donc la question comment on peut s'en servir. Si vous tapez, par exemple, sur un moteur de recherche, quelque chose comme astrologie, je reprends basiquement cet exemple-là, qu'est-ce que vous allez obtenir comme sites qui sont plutôt critiques par rapport à l'astrologie ? En vrai, pas tellement. Mmh. Donc, les premiers résultats de votre moteur de recherche vont quasiment aller dans le même sens. Donc, est-ce que les réseaux sociaux ne peuvent pas être aussi un endroit où on va véhiculer la critique ? Et une critique raisonnée, éclairée. Je pense à un site comme Oxbuster qui, quand on va dessus pour déconstruire les rumeurs, va exposer non seulement pas son idée, mais les sources, l'origine de l'information. Vous pouvez aller vérifier et vous pouvez prendre le temps. Et si cette information-là se diffuse sur les réseaux sociaux, c'est en soi un moyen aussi d'y accéder et de faire, comme disait Guimette avec ses étudiants, allons-y, confrontons les idées, confrontons les arguments.
Mais c'était, plus je vous écoute et plus je me dis que c'est une vraie bataille politique, mais dans le meilleur sens du mot politique. Comment on partage encore une fois l'espace de la cité et comment on essaie d'en donner une lecture construite, enfin comment articulée.
Comment on redonne aussi du pouvoir de décision aux individus. Je veux dire, à partir du moment où la seule solution qu'on a, c'est de faire confiance à des experts, on perd du pouvoir. Se réapproprier une démarche qui nous permet d'aller trier l'information et de choisir, mais je ne sais pas, parce que tout à l'heure vous parliez, posez une question sur la décision, quelle thérapie je choisis si un jour j'ai un cancer ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais de la chimio ? Est-ce que je vais prendre de la curebreuse ? Est-ce que je me tourne vers des médecines dites alternatives ? Pourquoi ? Comment ? Etc. Ça devrait être un choix qui m'appartient. Pourquoi le laisser à un médecin ? Enfin, même si j'ai beaucoup de... je trouve que ces choix-là, il faudrait qu'on soit capable de les faire sur des choix politiques, sur des choix économiques, sur des choix scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce qu'on va développer telle ou telle partie, telle ou telle technique ou pas d'autre ? Je pense qu'à chaque fois, on nous dit non, mais on ne peut pas comprendre parce qu'on n'est pas spécialiste. Mais alors, je ne sais pas, qui peut décider, en fait ? Est-ce que, je pense que, alors que, franchement, ces méthodes-là nous permettent de nous faire un avis et au moins d'en discuter sur un terrain où la forme de l'argumentation est partagée. Et du coup, on peut changer d'avis si on a tort.
Je nous renvoie tous vers vous, hein, que ce soit à Marseille, à Grenoble, à Montpellier, dans tous ces domaines universitaires où la zététique se développe, et aussi avec à Centrale et à Polytechnique, parce que tant qu'Idriss Aberkane est là, la bataille n'est pas perdue.
Merci beaucoup.
Un petit mot quand même de notre cher Paul Ajac, qu'on va retrouver dans quelques minutes pour Exil, son émission, qui a été enregistrée au Théâtre de l'Odéon. Elle est consacrée à une belle figure, celle de Kateb Yassine, qui est un écrivain, poète et dramaturge algérien. Et pour parler de son œuvre, Mohamed Kassimi, lui-même écrivain et metteur en scène, sera là auprès de Paul Ajac. Et les textes de Kateb Yassine seront lus par le comédien Jean-Damien Barbin. Dernière nouvelle du front, vous voulez savoir ? Non, il n'y aura pas eu de 10 sur 10,
mais quand même un 9. Je suis assez déçu.
Merci à vous tous. France Inter, il est 14h.